L'affaire Harvey Weinstein, le tout-puissant producteur américain, fait des vagues jusqu'au Québec. Les choses ont déboulé, évidemment, dans les derniers jours et même, je dirais, dans les dernières heures. La presse dévoilait hier les inconduites sexuelles de l'animateur et producteur Éric Salvaille, suspendu de la radio, de la télévision, perte de contrat de publicité. Éric Salvaille affirme maintenant regretter les inconvénients causés par les gestes qu'il a posés et du même souffle annonce qu'il prend une pause. Ce matin, nous vous parlons du cas de Gilbert Rozon, un autre puissant producteur, juste pour rire, les fêtes du 375e anniversaire. À la veille de la diffusion du reportage que vous allez entendre ce matin, il a annoncé qu'il quittait ses fonctions à Juste pour rire, également comme commissaire du 375e. Et rappelons aussi qu'il a une carrière très bien établie en France et d'ailleurs ce matin, commence à avoir un certain nombre de réactions. Monique Néron et Émilie Perrault ont donc enquêté sur Gilbert Rozon. Les témoignages que vous allez entendre, et je rappelle qu'il y a toujours présomption d'innocence dans un cas comme celui-là, comme dans tous les cas où il y a des allégations. Cependant, ça montre clairement que, au fil des ans, Gilbert Rozon a multiplié ce qu'on peut appeler des inconduites sexuelles, mais surtout des rapports avec les femmes qui gravitaient dans son entourage professionnel, dans son milieu de travail, donc des rapports basés sur le harcèlement, sur les attouchements et jusqu'à un certain point sur de l'acharnement. Monique, on va mettre ça en contexte. Ça a commencé comment?
Émilie et moi, on a effectivement mené cette enquête, Paul, qui s'inscrit dans la foulée de l'affaire Weinstein, oui, et du hashtag « Moi aussi », qui a déferlé sur la France, sur le Québec au cours de la dernière semaine. Nous avons interviewé 10 femmes qui ont accepté de témoigner à visage découvert et de nous raconter ce qu'elles ont vécu. Ces femmes-là, Paul, sont animatrices, réalisatrices, comédiennes, recherchistes, entrepreneurs et productrices. Elles avaient entre 14 et 27 ans au moment des événements. Et ce sont des femmes qui ont, avec humilité, dignité et courage, décidé de briser des années de silence. Ensemble, en fait, ce matin, elles brisent 35 années de silence. Et nous vous présentons 5 témoignages.
Et on va y aller donc de façon chronologique. Donc tout d'abord, on va vous raconter l'histoire de Lynn Charlebois, qui, elle, est réalisatrice. On est en 1982. À l'époque, elle est photographe. Elle nous a raconté qu'elle avait un rendez-vous avec Gilbert Rozon pour lui montrer son portfolio de photos pour le festival La Grande Virée, qui était le festival juste avant, juste pour rire. Elle le rencontre donc à son bureau en matinée. Il aime ce qu'il voit, mais bon, finalement, il n'a pas le temps. Il lui dit qu'il aimerait la revoir en soirée, qu'il pourrait aller en discuter autour d'un verre. Il va passer la chercher chez elle. Elle nous raconte qu'il est arrivé à l'heure du souper. Lynn est chez elle avec son chum. Ils mangent du pâté chinois tous les trois ensemble autour de la table. Et donc, finalement, on convient d'aller prendre un verre. Gilbert dit, en se rendant vers le bar, « J'arrêterai chez moi, c'est pas très loin de chez Lynn, juste pour aller changer de chemise, parce qu'il avait la même pendant toute la journée. » Et donc, elle décide de le suivre dans son appartement.
Donc, je me retrouve chez lui parce qu'il veut changer sa chemise. Je trouve que c'est long un peu. Il allume un joint. Puis, moi, j'étais tellement excitée là, d'avoir peut-être un de mes premiers contrats en photo. Et puis là, la première chose que je sais, c'est qu'il saute dessus. Baisse les culottes et je me dis, il vient de rencontrer mon chum. Je l'ai vu pour la première fois le matin. Ben, j'ai figé. J'ai complètement paralysé. J'ai fait la planche. J'ai eu peur. J'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, c'est qui ce gars-là? Il a peut-être barré à la porte et j'ai eu peur de mourir. C'est pas compliqué. Alors là, je l'ai laissé faire. Puis j'ai attendu qu'il finisse. Et je me suis dépêchée, tout ramasser mes affaires. Puis je suis partie. Je suis allée voir mon chum, puis j'étais en mes miettes. J'ai jamais pensé porter plainte. Ça m'est même pas venu à l'idée. Moi, ce qui a monté dans moi, c'est la honte. Ça fait 35 ans que je suis rendue colère, parce que c'est un acte grave. Puis moi, je suis quand même vue comme une femme forte, et à moi, ça m'a fait un mal énorme, parce que c'est épouvantable.
Il faut préciser que plus tard, une amie de Lynn Charlebois lui a confié qu'elle a été violée par Gilbert Rozon. Et à ce moment-là, elles ont voulu porter plainte en 1998, quand une croupière a accusé Gilbert Rozon d'agression sexuelle. Vous vous rappelez, au manoir Rouville Campbell, accusation pour laquelle il a plaidé coupable et il a obtenu une absolution inconditionnelle. Et les policiers qu'elle a rencontrés lui ont dit que l'événement était trop vieux et qu'elle ne pouvait pas porter plainte. Cette semaine, dans la foulée de l'affaire Weinstein, Lynn Charlebois a décidé de faire une publication sur sa page Facebook en invitant des victimes à se regrouper. Et c'est ce qui nous a permis de parler, entre autres, avec Anne-Marie Charrette.
Anne-Marie Charrette, aujourd'hui, Paul, a 55 ans. Elle est recherchiste en cinéma et télévision. Et là, on retourne à l'été 1987. À ce moment-là, elle a 25 ans. Elle est engagée à la promotion pour les monstres de l'humour au Festival Juste pour rire. Et là, il nous raconte que dès son arrivée, elle remarque que le grand patron, Gilbert Rozon, entre dans sa bulle à elle. Il lui tourne autour. Elle se sent inconfortable. Le festival commence et à un certain moment, Gilbert Rozon l'appelle directement, ce qui déjà en soi est assez inhabituel.
Là, il me dit, Anne-Marie, il faut que tu viennes à l'hôtel parce qu'à ce moment-là, on était à l'hôtel du parc. Il dit, viens, il faut absolument que tu m'apportes tel dossier. J'en ai besoin. Je suis dans la chambre, tel numéro, un tel. Et là, ben, je suis déjà consciente de sa gamique, puis je lui dis non. Je lui dis non, je veux pas y aller. Je sais que t'as pas besoin du dossier, puis je sais pourquoi tu me fais venir. Je raccroche, mais là, je suis comme super nerveuse et le cœur me débat parce que je viens de dire ça à Gilbert Rozon. Il m'a rappelé peut-être 10 fois. Puis là, mais mon sous-boss, je lui en parle. Puis là, il me dit, ben, si Gilbert t'appelle pour avoir un dossier, vas-y. Fait que là, je pars avec mon sac à dos, je marche jusqu'à l'hôtel et j'arrive avec le dossier dans mon sac à dos et je cogne à la porte et je sais ce qui m'attend. Ou en fait, je l'appréhende. Puis, en effet, il ferme la porte, il me pousse sur le lit. Et là, ses yeux sont exorbités comme une espèce de regard de fou. Tu sais, il essaie de me coucher. Puis là, moi, je fais non, tu me feras rien. Finalement, il m'a laissé sortir de la chambre d'hôtel. Mais c'était un harcèlement de ses faits pendant des mois.
Anne-Marie Charrette dit avoir perdu son emploi à Juste pour rire à la suite de cet événement dans les semaines qui ont suivi. Ce qui nous mène à l'année suivante, en 1988. Sophie Moreau, et aujourd'hui recherchiste en cinéma et télévision, elle est la fille de l'humoriste et imitateur Jean-Guy Moreau, qui est décédé en 2012. En 1988, Sophie Moreau a 15 ans. Son père connaît très bien Gilbert Rozon, ils sont amis, et elle est embauchée comme ça, comme réceptionniste chez Juste pour rire. C'est donc son premier emploi d'été.
La première fois, c'est un soir pendant le festival. Il y avait un spectacle à la Place des Arts. À l'époque, je connais vraiment bien la Place des Arts parce que mon père était là souvent. Fait que je connais les loges, je connais toutes, là. Puis Gilbert, il m'a amené backstage, mais pas dans le bon backstage. Puis il m'a amené dans la salle de... comme les trucs de maintenance. On descend un escalier métallique, puis il fait noir en bas, puis je le sais qu'on va pas à bonne place. Je le sais. Parce que je la connais, la place. Mais je descends parce que c'est Gilbert, c'est le meilleur ami de mon père, puis j'ai confiance en lui, évidemment. Puis là, il me prend dans ses bras, puis il me dit « embrasse-moi ». Puis il me regarde, puis j'ai 15 ans, je suis quand même développée à cet âge-là, même pas mal développée. Et bref, il me presse contre lui, puis il veut que je l'embrasse, puis je refuse, évidemment, et je le repousse. Je dis non, mais pas violemment, juste non. Moi, j'ai embrassé un gars dans ma vie avant, le fait que je suis vraiment pas bref. Fait que il part à rire, il voit qu'il y aura rien, ça marchera pas, puis je suis terrorisée.
Et l'année suivante, donc l'été 1989, Sophie Moreau a 16 ans. Elle n'a jamais rien dit à sa famille, à son père, qui ignore tout de la situation. Donc, elle se retrouve à retourner travailler comme réceptionniste.
Tous les soirs de festival, Gilbert s'est essayé. Il m'a demandé de coucher avec, de l'embrasser. Il me prenait par la taille, par en arrière. Il me faisait des avances. Bref, ça a été du harcèlement sexuel qu'il a fallu que je le repousse tout le temps. Ça a été difficile.
Environ une dizaine d'années plus tard, Paul, elle a raconté à ses parents, à son père, ce qu'elle avait vécu. Et son père, je cite, est tombé des nues. Il était choqué, triste et en colère.
Ça nous amène donc au témoignage de Salomé Corbeau, qui, elle, est comédienne. On est en 1990. Elle a 14 ans. Elle travaille au festival Juste pour rire dans les animations de rue. Et un soir de rap party à la fin du festival, voici ce qu'elle nous a raconté.
Et lors d'un de ces gros parties de fin de festival, Gilbert, qui était très, très intoxiqué, là, c'était visible à l'œil nu et à l'odeur, m'a sauté dessus, agrippé, a commencé à passer ses mains sous ma robe. Et je me suis mis à dire, « Ben voyons, Gilbert, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans. » Et je suis quand même une jeune fille qui parle fort puis qui était capable de se déprendre. Fait que j'ai renommé très fort, « J'ai 14 ans », espérant que les témoins autour, puisque c'était une fête en extérieur, dehors, entendent et réagissent, mais... Visiblement, les gens n'ont pas capté mon cri. Et au moment où Gilbert est descendu vers ma petite culotte et qu'il a réussi à y insérer un doigt, j'ai réussi à vraiment le repousser parce que, bon, ben, j'ai toujours été un peu baraquée. Et il a juste fait volte-face et a disparu.
Ça nous amène ensuite au témoignage de Penelope McQuaid, qui est animatrice. Nous sommes maintenant en 1997. Elle est chroniqueuse culturelle à Salut Bonjour. Pendant le festival Juste pour rire, elle travaillait sur un quart de nuit. C'est-à-dire qu'elle allait voir des spectacles en soirée, elle restait sur place et elle allait directement à TVA vers 3 heures du matin. Donc, elle dormait après l'émission. Alors, on est dans un contexte de travail. Elle est là-bas, il est tard dans la nuit, mais elle n'a pas bu. Et elle est avec sa fréquentation de l'époque au cabaret du musée Juste pour rire.
Donc, je file en direction de la salle de bain, ouvre la lumière et tout de suite après moi, je sens... Donc, quelqu'un qui rentre, je sens, en fait, je vois la lumière se fermer et j'entends la porte se barrer et quelqu'un que j'ai aperçu était Gilbert Rozon. J'aimerais dire enlacé, mais c'est un terme trop, trop tendre pour ce qui s'est passé. Il s'est, bon, jeté sur moi. Et j'ai complètement figé, complètement gelé, lui aussi d'ailleurs. Au bout d'environ, je présume, être une minute de plainte, de plaidoyer, de je me rappelle juste mes phrases qui résonnent dans mon oreille, c'était « Gilbert, non, Gilbert, non, Gilbert, non, Gilbert, non ». C'était juste ça, et ça s'est pas rendu plus loin, je me suis donc extirpée de son étreinte, je suis sortie de la pièce, j'ai dit à la personne que je fréquentais à l'époque « Viens, on s'en va ». Évidemment, ça a pas de commune mesure avec un viol ou une agression violente. Mais tout ça rentre sous le chapeau de la honte qu'on peut ressentir, de la culpabilité qu'on peut ressentir. Alors, c'est sûr que j'ai, comme bien des gens, tendance à diminuer, à minimiser, à banaliser l'expérience. Mais ces comportements-là sont inacceptables.
Et vous venez donc d'entendre des témoignages qui couvrent la période de 1982 à 1997. En décembre 2016, Paul, il y a une jeune entrepreneure de 25 ans qui a porté plainte au SPVM. Elle alléguait avoir été agressée sexuellement par Gilbert Rozon en marge de ce qui devait être en réalité un rendez-vous d'affaires pour du mentorat à la suite de son passage à l'émission Les Dragons. Et au terme de l'enquête, parce que, bon, j'avais reçu certaines informations également en cours de route, un procureur du DPCP et un sergent détective ont rencontré la plaignante pour lui annoncer qu'il n'y aurait pas d'accusation pour le moment. L'enquête demeure ouverte, c'est ce que nos informations nous révèlent, mais sans preuve nouvelle ou sans autre plainte, il serait possible d'aller de l'avant. Mais hier, une des femmes qu'on a rencontrées un peu plus tôt cette semaine, mardi, en fait, qui a requis l'anonymat, a décidé de se présenter au SPVM et de porter plainte. Cette femme aurait été agressée sexuellement dans une chambre d'hôtel de Paris en 1994. Hier, évidemment, dans la foulée de ce que nous venons de vous révéler, nous avons exposé à un membre de l'équipe de Gilbert Rozon les résultats que nous avions obtenus. On a sollicité une entrevue avec lui. Gilbert Rozon a décidé de ne pas commenter avant d'avoir entendu ce qui allait être présenté sur nos ondes ce matin, ce que nous avions recueilli. Deux heures plus tard, on le sait maintenant, il annonçait sa démission dans une déclaration officielle sur Facebook. Ça va comme suit. J'annonce que je quitte dès maintenant mes fonctions de président du groupe Juste pour rire, de commissaire aux célébrations du 375e de Montréal et vice-président de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Je me retire par respect pour les employés et les familles qui travaillent pour ces organisations, ainsi que tous nos partenaires. Je ne veux pas leur porter ombrage. Ébranlé par les allégations me concernant, je souhaite consacrer tout mon temps à faire le point. Alors, il termine en disant ceci à tous ceux et celles que j'ai pu offenser au cours de ma vie. J'en suis sincèrement désolé.
Merci beaucoup, Monique, Émilie. Certain nombre de choses à dire en conclusion avant d'aller retrouver Marc pour l'heure de pointe. Ce qui est important, je pense... et vous pourrez tirer vos propres conclusions, c'est d'abord de montrer que tous ces événements sont reliés à l'univers du travail, au monde professionnel. On n'est pas dans des relations homme-femme, jeu de la séduction. On est dans une relation de pouvoir exercée par un producteur auprès de gens, de femmes, de jeunes femmes, à ce moment-là, et même de mineurs, qui gravitent autour de lui. Premier constat. Deuxième constat, c'est ce qu'on pourrait appeler un pattern. Une façon de se comporter avec les femmes. Une façon d'entrer en relation forcée avec des femmes. Je rappelle qu'il y a toujours la présomption d'innocence, c'est clair. Et certains diront probablement ce matin pourquoi ces femmes parlent maintenant si on a des situations qui se sont produites dans les années 80, dans les années 90. Pourquoi? Parce que c'est jamais simple de porter plainte. C'est pas quelque chose de facile. Et je pourrais vous parler de Nathalie Simard, qui a attendu des années avant de se décider à porter plainte contre Guy Cloutier. Puis est-ce que quelqu'un aujourd'hui remet en cause la dénonciation de Nathalie Simard? Et ça a été dur pour elle, avant, pendant les procédures, et c'est sans doute encore difficile aujourd'hui, quand des événements surviennent. C'est sûr qu'il y a un niveau, disons, de violence qui varie d'un cas à l'autre, ou de harcèlement qui varie d'un cas à l'autre. Le mot que les avocats aiment bien, c'est « inconduite sexuelle ». Il paraît que ça passe bien. Mais ça demeure quand même un comportement. Et ces femmes, vous l'aurez compris, parlent aujourd'hui parce que, d'abord, il y a comme un mouvement. Et souvent, les mouvements comme ça ne donnent pas beaucoup de résultats. C'est-à-dire que ça meurt dans l'œuf, puis on passe à autre chose. Sauf qu'elles ont été interpellées et elles ont décidé de parler. Et c'est beaucoup plus facile ensemble de faire face à la musique et d'aller sur la place publique pour raconter ce que un producteur puissant, une figure dominante de la vie montréalaise, leur a fait vivre à un moment de leur vie. Et je pense que c'est ça qu'on voulait faire ce matin. Et vous avez entendu dans les propos, ce sont des femmes qui se sentent mal, qui se sont senties coupables. Ce sont des femmes qui, je pense que c'est Penelope McQuaid qui dit ça, qui dit on a tendance même à banaliser l'événement parce qu'on veut finir par l'oublier puis dire que c'est pas grave. Alors que c'est quand même majeur dans leur vie, que ça laisse des traces et des séquelles.